Digue Radio.
Digue Radio,
la radio qui vous écoute.
On est de retour sur Digue Radio Sud-Vendée pour la conférence de presse avec les organisateurs Jean-Félix Pétraud et Manu Allard. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut Nico.
Ça va Nico?
Est-ce que Jean-Félix, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le bilan de ce festival? Je sais que Manu, tu as utilisé le mot adaptation. On en a parlé vendredi soir parce qu'il y avait plein de conditions qui se passaient. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan tous les deux?
Non.
Non, merci. Merci Jean-Félix.
Non, le bilan, il est multiple, encore une fois, comme on l'a dit auparavant. Tout d'abord, la première chose quand même, c'est qu'on fait le meilleur score de l'histoire du festival. C'est-à-dire qu'on fait environ 10 000 festivaliers sur les 3 jours, ce qui est énorme, hein, on ne les avait jamais atteints. Donc c'est une vraie satisfaction de se dire que ce type de palier, on peut le franchir. Et ça veut aussi dire que dans une page de l'histoire du festival post-Covid, après 2021, 2022 et à présent cette année, eh bien on progresse de cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment une vraie satisfaction. C'est-à-dire que les gens répondent présents. Les gens ont besoin et envie encore de ce type d'événement de culture dans une conjoncture qui est quand même complexe, difficile. Là, on nous parle que de guerre ici et de guerre là. Ça fait du bien d'avoir de la musique et de ressouder les gens, l'esprit communauté, hein, de partager. C'est aussi pour ça qu'on fait ce festoche. Donc de ce point de vue-là, c'est un bon bilan. Le bilan économique, lui, est un petit peu plus terni parce que on sera peut-être pas à l'équilibre et ça veut dire qu'on doit encore perfectionner, améliorer. Et c'était le fruit de toutes les discussions de ce matin avec la société de production avec laquelle on organise le festival, les membres du bureau, monsieur le maire Ludovic Ogbon, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'on envisage des choses qui sont plus pertinentes et à l'équilibre pour un avenir plus serein et la pérennité du festival qui reste également notre objectif premier, ça c'est certain.
Manu, comme je le disais tout à l'heure, tu as dit vendredi adaptation, l'année dernière c'était convivialité, c'est le mot phare de ce week-end adaptation.
C'est ça, ouais. Moi, chaque édition, j'ai un mot particulier. Donc, effectivement, comme tu disais, l'année dernière, c'était convivialité. Cette année, c'est adaptation. Alors, pourquoi adaptation? Parce qu'il a fallu qu'on fasse front aux intempéries et que ça a demandé beaucoup de changements de plateau, d'une scène qui, la scène extérieure qu'on a bouclée. Et de voir après, d'avoir l'accord des artistes pour aussi jouer donc tous les artistes à l'intérieur, dans la grande de salle. Donc ça nous a valu aussi quand même avoir Zao Zagazan sur la grande scène, donc, alors qu'elle était prévue sur l'extérieur, donc c'était plutôt une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, effectivement.
Surtout, moi je remercie vraiment toute l'équipe technique et nos bénévoles qui ont assuré justement pour pouvoir se réadapter, pour assurer le festival dans la salle, en fait.
Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vous parlent de programmation et qui vous disent que c'est très éclectique chez vous, ça rassemble des générations? Quel est l'objectif de cette programmation?
Alors ça fait depuis le début, hein, depuis 2017, que le Festival des Nuits Courtes existe et on a toujours choisi effectivement de jouer sur un choix en tout cas d'artistes plutôt éclectique. On se demandait parfois à se dire est-ce qu'on ferait pas plutôt une identité musicale et finalement je pense que ce qui est important pour nous c'est d'accueillir un maximum de monde, de fédérer vraiment tout le public. Et quand je dis tout le public, ça va de jeunes à moins jeunes. Et on choisit effectivement nos artistes, on choisit effectivement de pouvoir avoir un choix très très large artistique pour répondre au maximum de personnes.
Et Jean-Félix, cette programmation a été aussi bien féminine en tête d'affiche que masculine?
Oui, exactement. Le festival, c'est aussi des valeurs qu'on porte, nous membres du bureau, des valeurs sociales, des valeurs humaines, des valeurs de partage. On essaie de les retranscrire et puis de les faire porter à travers cet événement qui est cher à nos cœurs. Et oui, dans la programmation, c'était pas forcément une volonté dans l'immédiat, mais ça s'est produit par la suite avec des artistes tels que Zao, tels que Isia, notamment, mais pas que, hein, bien sûr, Zifreya, etc. Et c'est un plaisir, franchement, de pouvoir transmettre ça à une génération qui est plutôt jeune, cette année, qui était présente. Et de ce fait, on est ravis, parce qu'en plus, les shows étaient très bons, vraiment, c'était de la grande qualité. Les performances artistiques sur cette grande scène, dans l'espace René Cassin, je me répète, hein, c'est un écrin incroyable.
Incroyable, tu l'as dit plusieurs fois.
Mais il faut se le dire, en une ville de 14 000 habitants, d'avoir un tel outil, c'est super de pouvoir l'employer, l'utiliser à ces fins-là et de pouvoir donc rassembler les gens du territoire et les autres dans cet espace-là et vivre ensemble un grand moment. Et les artistes nous ont permis, pour le moment, vraiment de vivre ça. Que ce soit, voilà, même Mandragora, une scénographie extraordinaire. Wax Taylor, c'était fantastique. Zao Zagazan, c'était vraiment très bien. Isia, c'était bien pumpy, c'était chouette. Donc ça continue. Le Bécard, Coelho, tout le monde, Zola, c'était le feu. C'est vraiment chouette, quoi. Et ça continue aujourd'hui, là, on l'entend, c'est bien.
Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi quand, quand on a une programmation plutôt basée aussi avec les jeunes? Vous le disiez, plus de 1000 passes culture récupérées, on va dire, au moins juste pour la journée de samedi. Ça montre sur 4600 personnes, ça montre un quart de jeunes étaient présents ce samedi soir sur le festival.
Oui, c'est vrai. Oui. Bah alors c'est un public cible, hein, certes, hein, mais pas que. Nous, on est contents parce que ça veut dire que ces dispositifs qui sont créés et qui existent pour cela, c'est-à-dire aider une population qui, en principe, a peut-être un peu moins de moyens financiers à pouvoir participer et assister à ce type d'événement culturel. Et ça permet, et c'est là la vocation aussi première du festival, enfin une des vocations premières du festival, de promouvoir la culture et le rassemblement des gens dans ce type d'événement, dans un territoire qui, en théorie, en est un petit peu désuet. Donc finalement, tout fonctionne grâce à cela. Ça nous fait des festivaliers, ouais. Eux, ils peuvent venir et tout le monde est content.
Ouais, et c'est vrai que depuis qu'on a débuté, donc il y a 7 ans maintenant, le festival est reconnu aujourd'hui sur le territoire et on fait vraiment rayonner la ville de Fontenay mais beaucoup plus largement maintenant. C'est vrai que le festival, maintenant, on a du public qui vient d'Angers, du Poitou, de Nantes.
Vous avez un pourcentage qui montre un peu que ça vient de partout? Vous avez quelques chiffres, on en discutait ce midi à la conférence de presse, mais oui. Vous en avez quelques-uns pour montrer
Alors ceux de cette année, on ne les a pas encore, mais bien sûr avec les datas, parce que c'est vrai qu'étant donné qu'on a ces informations via les achats numériques, via les achats de tickets, eh bien on sait, grâce aussi à des études avec l'Observatoire économique des Pays de la Loire qui a été fait l'année précédente, que par exemple 54% de nos festivaliers sont vendéens, 31% au niveau du département, le reste au niveau de la communauté de communes et de la ville de Fontenay-le-Comte. Mais oui, comme je le disais ce matin, effectivement la population qui vient des Deux-Sèvres est de 14% et peut-être de 8% de Niort, il me semble, de mémoire, alors qu'auparavant, il y a de cela 4 ans, c'était 4%. Donc on voit qu'il y a une réelle progression, une extension de la zone, de l'attractivité du festival qui va au-delà de frontières qui étaient préexistantes. On va derrière Nantes, on va derrière Bordeaux, on va derrière Poitiers. Et l'anecdote, hein, c'était des festivaliers qui sont arrivés jeudi soir, c'était en vélo, ils venaient de Toulouse. C'est formidable.
C'est ça qui est formidable, c'est que vous arrivez à transporter ce festival, à l'inclure sur le territoire et à le transporter en dehors des frontières.
Eh ben ça y est, ouais. Alors l'inclure sur le territoire, ça y est, c'est bon, c'est fait. Hein. Voilà, on peut se dire. Effectivement, maintenant, c'est de l'exporter justement au-delà de nos frontières départementales en tout cas.
Est-ce qu'on peut parler un peu de l'année prochaine? Le festival existera bien pour assurer tout le monde? Est-ce qu'il y a des discussions? Comment ça fonctionne pour l'année prochaine?
Eh bien, ça y est, on a commencé à avoir des réunions déjà pour...
Donc le festival en 2024 sera là. Donc
le festival en 2024 sera là. Bon, on est encore sur des choix un peu de dates. Ouais. On était encore sur des choix de format, mais ça avance. De toute façon, l'idée est de garder la même identité de ce festival.
Ça va durer 8 jours.
8 jours, le festival, je crois que c'était les recherches de programmation. Non, oui. 8 jours, non, mais après voilà, c'est un format, c'est un festival qui doit aussi continuer à se trouver, à se chercher. On le sent que voilà, il y a une marque qui commence à arriver, le festival des Nuits Courtes, ça devient une marque sur le territoire.
Oui, complètement. Ah ben là, ouais, vraiment, ouais. Et on le sent et on sent l'effervescence des jeunes, tout ça, c'est super. Moi, ça fait... plus de 2 mois depuis la rentrée en fait qu'on entend parler que du festival sur Fontenay, hein.
Et un festival aussi qui a accueilli l'école de musique, qui a accueilli une association de migrants à l'instant, là tu étais avec Manu avec eux tout à l'heure aussi, ouais. Mais expliquez-nous un peu tous ces projets que vous avez aussi au contour.
Alors ben là c'est des projets aussi, c'est des actions qu'on mène donc pendant le festival auprès de l'école de musique intercommunale par exemple. Il faut savoir que la Comcom nous aide financièrement financièrement. Bon, ben, c'est la contrepartie, justement. On propose aux élèves de l'école de musique de Fontenay de pouvoir visiter le site, donc tout l'envers du décor du festival. C'est-à-dire tout ce qu'un public, tout ce qu'un festivalier ne voit pas, on leur propose une visite, on leur propose une rencontre avec, avec un artiste. Et bah, c'est des moments chouettes parce que ça permet à ces jeunes-là aussi peut-être de, bah, de vouloir après rentrer aussi en tant que bénévole ou découvrir aussi ce qu'est tout ce qu'il y a derrière un festival, la construction d'un festival et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Comme là, là les jeunes que je viens de lâcher, ils m'ont dit mais on pensait pas qu'il y avait tout ça, il y a énormément de bureaux, mais il y a plein. Enfin voilà, et c'est vrai, quand on est festivalier, on est loin de se rendre compte de, du travail qu'il y a derrière.
Combien de bénévoles ça regroupe là votre festival ?
254.
C'est, vous êtes déjà bien.
1,5.
Oui. Il y en a un qu'on ne sait pas trop où il est. Ok, d'accord, on ne sait pas qui c'est.
Il est bizarre.
Il est bizarre. Ok, j'en fais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les jours qui viennent ? Peut-être du repos déjà, parce que vous avez bien l'air fatigué de sortir trois jours.
Des mécènes.
Des mécènes.
On ne va pas se mentir, quand même, la pérennité du festival se jouera sur le plan de l'économie. C'est très difficile pour la culture dans sa grande globalité. Les gros gros festivals sont en train de bouffer les autres événements. C'est dur de lutter face à ça. Les artistes coûtent très cher maintenant depuis le post-Covid. C'est pas facile de trouver, de faire son jeu à travers tout cela.
Il y a une augmentation de 30% hein, de cachet des artistes hein, depuis le Covid.
Aujourd'hui, vous le disiez en conférence de presse, mais un artiste qui coûtait 5000 avant le Covid en coûte 15 aujourd'hui.
C'est ça.
Donc faut trouver des subventions, faut trouver du mécénat, faut pour avoir un budget conséquent. Enfin, conséquent, mais surtout. À l'équilibre.
On peut les remercier, il y a énormément de partenaires cette année, et bon, il y a un gros travail de fait par rapport à ça parce qu'on en a besoin, on a plus que doublé la part de mécénat privé cette année par rapport à l'année précédente, mais on a des objectifs qui vont être exponentiels et c'est vrai que on souhaiterait, on espère que cet événement, ce festival des nuits courtes va trouver son écho également dans les oreilles de partenaires privés, d'entreprises qui veulent d'une part favoriser justement la culture sur le territoire et pas seulement faire valoriser leur image à eux aussi, mais bien sûr ça fait partie du job, donc c'est un petit appel hein. Nous on souhaite continuer dans sur ce travail là et puis on va intensifier, densifier, approfondir. Et puis, comme ça, on va pouvoir continuer à exister et à travailler ensemble.
Et c'est vraiment des entreprises aussi du territoire, hein, des entreprises locales, mais qui même aujourd'hui nous approchent nous proposer de l'aide financière, en fait. Hein. Donc, on n'est plus, comme il y a 3 ans, à aller grappiller, aller chercher. Alors, on le fait toujours, bien sûr, hein, mais beaucoup, de plus en plus d'entreprises viennent et puis...
Ouais, vous avez la marque Les Nuits Courtes. Maintenant, quand on se déplace dans une entreprise ou quand une entreprise vient vers vous, connaissent la marque Les Nuits Courtes.
Ouais,
et
voilà.
C'est ce qui est important.
La notoriété se fait sentir. C'est moins difficile de se faire connaître et de dire qui sommes-nous que ce fut le cas, par exemple, les 2-3 années précédentes. Mmh. C'est clair.
Dernière question, un coup de cœur de ce week-end. Alors, on n'a pas vu encore Prince Wally et PLK qui n'ont pas joué encore, mais est-ce que vous avez un coup de cœur de ce festival?
Bah, moi, je dirais Zao de Gazan. C'était top, hein, un super show. Wax Taylor, j'ai bien aimé aussi. Izia aussi, parce que Izia, ce qui fait du bien aussi, c'est qu'il y a tout un set de musiciens sur scène. Et ça fait du bien aussi d'avoir des guitares, de la batterie.
Une bonne guitare électrique, ça nous a fait beaucoup de bien avec Manu et moi. Mais oui, Zao, c'était la petite pépite, si je peux me permettre de parler ainsi. Que pour ma part, je voulais voir absolument cette année. Wax Taylor, j'avais eu la chance de le voir au KM à La Roche-sur-Yon, qui est une smack extraordinaire. D'ailleurs, vraiment, c'est génialissime là-bas. Donc, je l'attendais un peu moins, mais très curieux de voir ce set dans la salle René Cassin. Mais Zao, c'est absolument formidable. C'est dingue de voir ô combien cet artiste est en train de monter. Il va faire des zéniths bientôt. On lui souhaite vraiment une grande carrière parce que c'est fou. C'est fou comme c'est authentique et ça vient vraiment de l'intérieur ce qu'elle fait, donc c'est beau.
Et elle est passée à Fontenay-le-Comte,
oui,
au Nicourte. Félicitations à tous en tout cas.
Fontenay.
Merci.
Et son frère, qu'est-ce que je raconte? Son pianiste est originaire de Fontenay et c'est le frère de Lisa qui est dans l'association avec nous.
Donc encore une chose qui est encore locale.
Fontenay-le-Comte, terre de talent.
Terre de talent. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci à tous les deux. Merci de nous accueillir aussi encore avec la radio Dig Radio Sud Vendée. Pour ce festival, ça fait 3 ans qu'on arrive ici et on est toujours bien accueillis. Et merci encore et à l'année prochaine.
Mais oui, bien sûr,
ouais, tout à fait. Ouais.
Merci à tous les deux.
Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.